RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage. En Indonésie, aujourd'hui, dans ce pays à majorité musulmane, les signes de la montée du radicalisme religieux se multiplient, en particulier depuis l'incarcération en mai 2017 de l'ex-gouverneur de Jakarta, accusé de blasphème. L'intolérance à l'encontre des minorités semble gagner du terrain. La révision en cours du code pénal indonésien témoigne aussi de cette influence grandissante des radicaux, et la religion sera sans aucun doute un thème majeur de la campagne pour la présidentielle de 2019. Alors pour illustrer cette montée des discriminations, notre correspondant est allé sur l'île de Java, entre Yogyakarta et la capitale, Jakarta. Indonésie, radicalisme en pente douce, voici le grand reportage de Joël Brunner.
D'abord, il y a une cohue près de la porte du fond de l'église et les gens se sont mis à courir vers l'extérieur. À ce moment-là, je ne voyais pas ce qui se passait. J'ai d'abord cru un tremblement de terre, étant donné que c'est quelque chose de fréquent ici à Yogyakarta. Mais peu après, les chants de messe se sont interrompus. C'est là que j'ai entendu des pleurs et que j'ai vu un homme, une épée à la main, en train d'attaquer les gens. Je suis resté à l'hôtel dans l'attente de ce qui allait se passer. Je me suis dit que si je restais là, il allait se détourner des gens pour venir en direction de l'hôtel. Et c'est ce qui s'est passé. Il a fini par les laisser en paix et c'est moi qui me suis fait attaquer.
Karl Edmund Prier est un jésuite allemand installé en Indonésie depuis les années 60. Sans l'aube qu'il porte durant la messe, il arbore l'apparence simple et légèrement voûtée d'un papy souriant. Sous son béret, les points de suture témoignent encore du coup qui lui a été porté 15 jours plus tôt, début février, dans sa paroisse de Saint-Ilwina. Nous sommes dans les faubourgs de Yogyakarta, grande ville de l'île de Java, généralement considérée comme la capitale culturelle de l'archipel. Parmi les fidèles qui assistent à l'office dominical de 7h30, se trouvent de nombreuses personnes âgées. À l'image de Trisiasi Sudarsini, vieille dame frêle tout en dimanché, qui était aussi présente le jour de l'attaque. À l'évocation de la scène, elle se remet à trembler comme dans les souvenirs qu'elle évoque.
L'attaque a débuté juste après le début de la messe. D'abord, j'ai cru à un enfant qui était en train de faire un caprice, mais quand je me suis retournée, j'ai vu ce fou avec son épée qui donnait des coups aux gens. Je me suis mise à trembler. Les gens ont commencé à courir et à sortir de l'église, alors je les ai suivis. Vraiment, je tremblais comme une feuille et j'avais peur de faire une chute. Alors je me suis simplement cachée derrière une des portes.
Dans la foulée de l'attaque, des marques de solidarité se sont multipliées. Dès le lendemain, des habitants de toutes confessions sont ainsi venus aider à nettoyer les dégâts. Une solidarité dont témoigne par exemple Sujan Dianto, qui comme de nombreux Indonésiens n'a pas de patronyme. Pour être présent ce dimanche matin sur le parvis de l'église, ce catholique a parcouru le millier de kilomètres qui sépare sa ville du sud de Sumatra de la paroisse de Saint-Ilwina. Une manière selon lui de montrer que sa communauté refuse de se laisser intimider.
Je suis arrivé hier par avion de Palembang pour témoigner de mon soutien après l'incident qui s'est produit dans cette église. En toute franchise, personnellement, je suis très préoccupé par la montée de l'intolérance ici en Indonésie.
Que se passe-t-il dans le plus grand archipel du monde? Le père Karl Edmund Prier a son idée sur la question. Pour lui, le problème est avant tout politique.
C'est la première fois qu'une telle attaque se produit ici, mais je ne suis pas étonné. Ça chauffe en Indonésie et soyons clairs, je ne fais pas allusion au climat tropical, mais à la politique. Dans les circonstances actuelles, je comprends que certaines personnes se fassent influencer, qu'elles se fassent laver le cerveau et finissent par tenter des attaques de ce type. Je pense que tout cela est lié à l'élection présidentielle de 2019. Tous les jours, les gens ici parlent de politique, de parti, de ce qui va se produire l'an prochain, et tout cela contribue à créer cette atmosphère tendue.
Dans cette ambiance préélectorale, l'attaque de cette église javanaise est-elle un fait divers parmi d'autres ? Ou plutôt l'illustration de la montée de l'intolérance dans ce pays de 265 millions d'habitants. Ce qui est certain, c'est que les radicaux donnent de la voix à travers l'archipel, à l'image de ceux qui appellent publiquement à l'instauration de la charia, un corps de loi issu de l'interprétation du Coran. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait. En Indonésie, la banalisation progressive des discours radicaux depuis une quinzaine d'années, en particulier à partir de la chute du dirigeant Suharto, a notamment permis l'émergence de figures comme Abdul Somad, un prédicateur 2.0, dont les prêches souvent teintées d'humour parviennent à toucher une large audience, en particulier sur la plateforme de vidéo YouTube. Ses enregistrements les plus populaires dépassent ainsi le million de vues. Ce vendredi-là, à Yogyakarta, le prédicateur est l'invité de la mosquée Jogokaryan, principal lieu de culte de la ville. Retransmis jusque dans la rue par haut-parleurs, son discours politico-religieux est sans ambiguïté.
La charia peut-elle être mise en place en Indonésie ? Bien sûr que oui. Personne ne nous interdit de prier, personne ne nous interdit de jeûner pendant le ramadan. Nous pouvons donner l'aumône, nous pouvons faire le pèlerinage à la Mecque. Alors, pouvons-nous aussi appliquer la lapidation et d'autres lois islamiques ? Bien sûr que oui. Qui a le pouvoir de créer cette loi ? C'est le gouvernement local. Qui a le pouvoir de valider cette loi ? C'est le parlement local. Et nous, les citoyens, nous élisons les députés. Nous devons donc avoir conscience que ce type de loi locale peut constituer un levier pour l'instauration de la charia au niveau national.
Certains des centaines de fidèles qui ont fait le déplacement boivent littéralement les paroles de l'orateur. C'est le cas d'Abdillah, venu en moto de la ville de Solo, à 2 heures de route de là. En un mot, Abdillah, entrepreneur d'une trentaine d'années, est tout simplement un fan. Au dire de ce grand gaillard, les prêches d'Abdul Somad lui procurent en particulier un fort sentiment de fierté religieuse.
Comment vous dire, c'est un ulama très charismatique. Vous savez, une phrase qui sort de sa bouche, c'est pour moi comme s'il s'agissait d'une citation, comme si ces mots avaient le pouvoir d'unir tous les musulmans. Oui, Abdul Somad est quelqu'un qui nous donne le sentiment qu'on peut tous s'unir au nom de l'islam.
Quoi qu'il en soit, son discours sur la charia fait mouche et trouve écho auprès du public venu l'écouter, même si cela n'empêche pas certaines précautions oratoires sur les modalités de l'instauration d'une telle loi. Angita Gusan Bramasi, jeune fille de 20 ans, toute de bleu vêtue, est bien consciente que le sujet est sensible.
Je suis favorable à l'instauration de la charia parce que l'Indonésie est un pays à majorité musulmane. Même si, bien sûr, cela ne veut pas dire que nous devons nous débarrasser des autres religions. Mais puisque les musulmans sont majoritaires, nous avons le droit d'appliquer une loi islamique pour réguler la société. Tout cela nécessitera de la réflexion car il y a beaucoup de diversité en Indonésie. Il y a de nombreuses tribus, par exemple, et au sein même de l'islam, il existe différents courants de pensée. Donc, avant d'introduire une telle loi, nous devrons nous mettre d'accord et nous coordonner pour que cette loi ne soit pas discriminante.
Les organisateurs confirment que le prêche d'Abdul Somad, dont le thème portait sur la discrimination religieuse, s'est bien tenu spécifiquement à Yogyakarta en raison de l'attaque de l'église dans cette même ville quelques jours plus tôt. Toutefois, c'est paradoxalement la discrimination envers l'islam, pourtant ultra-majoritaire en Indonésie, qui était à l'ordre du jour. Mohammad Jazir est l'un des dirigeants de la mosquée Jogokaryan. Avec une once de mauvaise foi, il dresse un parallèle avec 2 autres faits divers récents qui se sont déroulés à Java.
Lorsqu'un ulema s'est fait tuer récemment ou qu'un imam s'est fait agresser dans une école coranique, seule la police locale s'en est souciée. Mais lorsqu'un prêtre est attaqué dans une église, alors qu'il n'est pas mort mais seulement blessé, tous les dirigeants nationaux s'y intéressent et viennent à Yogyakarta. Tous les médias en parlent et cela contribue clairement à renforcer un sentiment d'injustice.
À ses yeux, ce type de violence, même si elle s'exprime par le biais de la religion, puisent leur véritable source dans les inégalités sociales. Avec en ligne de mire de ses propos, l'un des boucs émissaires traditionnels de l'archipel, à savoir les Chinois, qu'ils soient entrepreneurs étrangers ou membres de la diaspora en Indonésie.
Cela fait des années que nous observons que nos concitoyens, qui sont en majorité musulmans, ont des difficultés ne serait-ce que pour obtenir un prêt. Alors qu'en parallèle, nous voyons la corruption et nous voyons aussi des ressortissants chinois se remplir les poches avec l'argent de l'État. Au final, c'est ce sentiment d'injustice-là qui s'exprime à travers la religion.
Quoi qu'il en soit, l'argument religieux ne sert de loin pas qu'à combattre les inégalités sociales. D'origine chinoise et de confession chrétienne, Ahok, l'ancien gouverneur de Jakarta, avait pour faiblesse politique d'être issu d'une double minorité. C'est peu dire que les islamistes, partisans d'un régime politique inspiré de l'islam, se sont mobilisés pour empêcher sa réélection, allant jusqu'à l'accuser de blasphème, puis organiser des manifestations géantes au cœur de la capitale pour obtenir sa tête. Une mobilisation dans laquelle la mosquée Jogokaryan de Yogyakarta a par ailleurs contribué, en facilitant notamment l'acheminement de manifestants jusqu'à Jakarta. La chute d'Aok, défait face à un candidat musulman, puis condamné dans la foulée à 2 ans de prison en mai 2017, a représenté une victoire majeure pour les radicaux, renforçant ainsi leur influence dans le jeu politique indonésien. Leur puissante démonstration de force témoigne aussi par ailleurs de l'évolution idéologique qui se répand à travers l'archipel. À Jakarta, Andreas Arsenault est chercheur pour Human Rights Watch. Il revient sur le concept de Pancasila, pilier de la constitution indonésienne, qui instaure en particulier un cadre théorique de tolérance entre les religions. Un cadre aujourd'hui largement branlant, selon lui.
Le Pancasila est un compromis. Il repose sur 5 principes très larges. Croire en Dieu, en l'humanité, en la démocratie, en la justice sociale et dans l'unité de l'Indonésie. Il n'y a rien à redire sur le Pancasila en tant que principe. Islamistes, sécularistes, non-musulmans, tous l'avaient accepté. Le Pancasila, je le répète, est un compromis politique. La question est la suivante. Ce compromis politique est-il toujours respecté? Et la réponse est non.
La chute en 1998 de l'ancien dictateur Suharto a progressivement libéré les forces islamistes que la répression étouffait jusqu'alors. Cette liberté s'est alors notamment exprimée à travers une série de nouveaux cadres législatifs et via l'usage plus fréquent des textes à connotation religieuse déjà en place. À l'image de l'ancienne loi anti-blasphème ou de la loi dite anti-pornographie apparue en 2010. Par ailleurs, l'instauration dans les années 2000 de conseils provinciaux dits d'harmonie religieuse a consacré la raison de la majorité en cas de litige confessionnel. Autrement dit, à quelques exceptions hindouistes et chrétiennes près, la raison de l'islam. Et Andreas Arsenault de conclure.
L'Indonésie est devenue un pays avec 2 systèmes législatifs divergents. D'un côté, il y a la loi fondée sur la Constitution, autrement dit le Pancasila, et de l'autre côté, il y a toute une série de réglementations, des centaines de réglementations basées sur la loi islamique.
Et ce mouvement législatif vers davantage de règles à connotation religieuse se poursuit. À l'heure actuelle, l'Indonésie planche en effet sur la révision de son code pénal, un système hérité du colon néerlandais. Et là encore, l'influence grandissante des radicaux est évidente. Criminalisation des homosexuels et pénalisation de toute relation sexuelle en dehors du cadre du mariage font notamment partie d'un certain nombre d'articles à l'étude qui suscitent la polémique. Sachant que même légèrement amendés, tout porte à croire que ces articles seront adoptés in fine. Sur la scène, Berka Gamulya, chanteur engagé du groupe Sisters in Danger, ne peut s'empêcher entre 2 chansons de clamer son opposition au projet de révision du code pénal. D'autant qu'en plus de certains articles discriminatoires, la liberté d'expression est elle aussi très largement mise à mal dans les premières moutures de ce projet en cours. À la sortie du concert, le jeune homme dit espérer qu'un maximum d'Indonésiens rejoignent le mouvement d'opposition.
This bill is already from Dutch.
Notre code pénal est un héritage de Hollandais. Et aujourd'hui, au lieu de l'améliorer et de moderniser l'Indonésie, nous sommes sur le point de revenir en arrière. Ce projet de révision est bien pire que le code pénal précédent. C'est de la folie. Non seulement les femmes, les victimes de la violence sexuelle et la minorité LGBT vont se retrouver criminalisées, mais en plus la liberté de penser et la critique elle-même, que ce soit envers le président ou les sénateurs par exemple, risque de devenir un crime. C'est quand même fou. Qu'est-ce que c'est que cette démocratie où l'on ne pourrait même plus critiquer nos dirigeants?
Sa jeune collègue percussionniste de 18 ans, JP Milenix de son nom de scène, abonde. Elle tient au respect de la vie privée qu'elle relie à la condition féminine, ainsi qu'au droit de se montrer critique.
Si ce projet de loi passe, ce serait une forme d'injustice envers toutes les femmes. Nous, militants ou simples civils, nous essayons d'éviter le pire. Nous nous battons au quotidien pour davantage d'égalité entre tous les citoyens. Mais si ce code pénal est voté tel quel, tous nos efforts seront réduits, pour ainsi dire, à néant.
De passage dans la capitale indonésienne, François Croquette, l'ambassadeur français des droits de l'homme, confirme les inquiétudes qui entourent l'évolution politique actuelle de Jakarta. Même s'il rappelle que la révision du code pénal n'est encore à ce stade qu'à l'état de projet et que les débats sont toujours en cours. En diplomate, Il préfère d'ailleurs parler au passé des articles polémiques, bien qu'il y ait peu de chances que les futures lois diffèrent sensiblement de leur version initiale.
Il y avait certaines provisions dans ce texte qui nous ont paru aller bien au-delà de ce qui peut être l'adaptation à des contextes locaux lorsqu'on parle de criminaliser non seulement les relations homosexuelles, mais également des relations sexuelles entre personnes consentantes. Dans tous les cas, il nous semble qu'on franchit une limite qui ne devrait pas être franchie parce que clairement c'est une atteinte à la vie privée et à des conventions internationales auxquelles l'Indonésie est partie prenante. Je crois qu'on a voulu marquer, comme l'avait déjà fait l'Union européenne, notre inquiétude et notre souhait de voir l'Indonésie revenir à ce qui est la tradition de tolérance qui a longtemps été la sienne et pour laquelle elle a été un acteur apprécié sur la scène internationale en matière de droits de l'homme.
Une tradition qui a aujourd'hui du plomb dans l'aile. Propagation accélérée du wahhabisme saoudien depuis la révolution iranienne de 79, influence du 11 septembre sur la montée des tensions entre Orient et Occident, conflit israélo-palestinien, le chercheur Andreas Arsenault dénombre de nombreux facteurs qui expliquent historiquement la radicalisation progressive en cours. Pour l'évolution récente spécifique à l'Indonésie, il remonte à 1998.
La chute de Suharto a provoqué un appel d'air démocratique. Auparavant, les organisations islamistes n'avaient pas d'espace pour propager leur doctrine et leur vision de l'islam. À l'heure actuelle, ils l'ont. Autre point de bascule, l'avènement d'Internet. Il y a seulement 20 ans, les réseaux sociaux n'existaient pas. Aujourd'hui, il y a Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, des blogueurs et j'en passe. L'Indonésie se retrouve submergée par un tsunami d'informations et beaucoup d'entre elles sont truffées de rumeurs, d'appels à la haine ou d'interprétations étriquées du Coran. Autant je peux admirer l'enseignement traditionnel de l'islam, autant je suis choqué de constater le déferlement actuel de lectures simplistes et d'interprétations littérales des textes.
L'image d'Épinal de société ouverte et tolérante du premier pays à majorité musulmane au monde, souvent mise en avant par les diplomates occidentaux et par les Indonésiens eux-mêmes, est aujourd'hui de plus en plus écornée. Tandis que de scrutins électoraux en texte de loi, l'influence des radicaux religieux ne cesse, elle, de progresser et de s'étendre petit à petit à la société indonésienne dans son ensemble. De plus, une élite politique largement gangrénée par la corruption et une société civile assez peu mobilisée paraissent mal armées pour endiguer ce phénomène de radicalisation progressive à l'œuvre dans le plus grand archipel du monde. Indonésie, radicalisme en pente douce, un grand reportage de Joël Bronner, réalisation Pierre Chavangeon.
Strongest vitamin is the true love and justice from the mind, so we can arrange the world.